Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. J'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer quel était le rapport entre Dieu et l'éternité. Le texte de cette ancienne émission est toujours à la disposition de ceux qui nous en feraient la demande. Mais quelle est l'origine de Dieu? Est-il vraiment le Créateur dont parle la Bible? Quelles sont ses œuvres dans ce cas? On prie Dieu, on l'invoque, on lui demande d'intervenir dans notre vie. Mais connaissons-nous bien cet être suprême à qui nous demandons de l'aide? Si les hommes sont parvenus à fabriquer la bombe atomique, la bombe à hydrogène et j'en passe, les réalisations de l'homme sont bien mineures à côté de la force, de la grandeur et de la puissance dont Dieu s'est servi pour sa création. Souvent, nous entendons dire « la nature fait bien les choses ». Mais si la nature fait si bien les choses, qui en a le mérite? Qui en est l'auteur? Au début du livre de la Genèse et de l'évangile de Jean, nous lisons les mots « au commencement ». Le livre de la Genèse débute avec ces mots « au commencement, Dieu créa ». Le mot hébreu traduit ici par « Dieu » est « Elohim ». Il signifie plus d'un personnage, plus d'une personne. C'est le pluriel de « El » ou « Eloah » qui est traduit par « le Tout-Puissant ». La forme plurielle du premier chapitre de la Genèse signifie donc « les Tout-Puissants ». Elohim a donc un sens de pluralité. L'apôtre Jean commence son évangile par ces mots. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Comprenons que ces deux personnages ne sont pas un Dieu, ni plusieurs dieux dans le sens littéral, mais ils sont une famille, dont le nom est Dieu, et tous ceux qui entreront dans cette famille porteront ce nom. La Bible nous dit que chaque chose a un commencement. Cependant, elle révèle qu'au commencement, Jésus, la parole, le Logos, était présent. Pourquoi la Bible dit-elle cela? Tout simplement parce que Jésus-Christ, l'Éternel de l'Ancien Testament, Yahvé, existait déjà, et donc était là au moment initial de la création. Si le Christ est le premier-né de la création, elle devait alors débuter par lui, et par conséquent, il ne pouvait pas exister au commencement. Pourtant, les Écritures sont précises, et je les cite, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole était bien là, elle était présente au commencement, elle ne peut donc pas, elle-même, être le commencement, car lorsque le commencement a eu lieu, déjà, elle était avec Dieu. Certains avancent un passage de l'épître de Paul aux Colossiens pour prétendre que la parole, le Christ, aurait eu un commencement de jour. Au cours d'une émission précédente, j'ai analysé ce passage des Écritures. Vous pouvez recevoir le texte de cette émission si vous le souhaitez. Ne perdons pas de vue que le Christ n'a pas toujours été un fils. Il l'est devenu au moment où il a été engendré par le Saint-Esprit de Dieu dans le sein de la Vierge Marie. Le psaume 89 et le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux sont clairs à ce sujet. Dieu n'est pas limité par le temps. Le temps n'a aucune prise sur les êtres éternels. Dieu est, et il n'a ni passé ni futur. La notion du temps ne le concerne pas. Le temps a été créé pour l'homme qui, souvent, voudrait le hâter ou le ralentir. Combien de fois n'entendons-nous pas dire « je voudrais être la semaine prochaine » ou encore « c'est dommage qu'on ne puisse pas revenir en arrière ». Mais le temps avance inexorablement. Sa marche est rythmée par le tic-tac de l'horloge ou par les pages du calendrier que l'on tourne. Durant son bref séjour sur Terre, l'homme livre une bataille silencieuse, incessante contre le temps. C'est une lutte qu'il ne gagne jamais. La plupart des gens aimeraient échapper au temps et vivre à jamais dans l'amour, la joie et la paix. C'est un souhait que Dieu partage. C'est une promesse qu'il fait à ceux qui lui sont fidèles. Lisons cette promesse. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il s'agit ici de la vie éternelle. Comment pouvons-nous déjà avoir la vie éternelle? Si le Christ vit sa vie en nous par son Saint-Esprit, qui est un gage de notre héritage futur, alors, comme Paul l'écrit, « Dieu nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Bien entendu, nous n'avons pas encore hérité de la vie éternelle, mais nous attendons, nous espérons cet héritage. Le don de la vie éternelle n'est possible que si l'homme est temporaire. Dieu lui octroie une période d'apprentissage au cours de laquelle il peut devenir un véritable disciple de Christ, se repentir, être baptisé et vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, afin de naître de nouveau lors de la résurrection et entrer dans la famille divine. Dieu est composé d'esprit. L'homme, lui, est physique. S'il est engendré de Dieu, il devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Il obtiendra son héritage lors de la résurrection. Dès ce moment, le temps n'aura plus de prise sur lui. Lisons ce que Paul écrit. Mais quelqu'un dira, « Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils ? » Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Sous-entendu, s'il ne meurt d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence, mais Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. En effet, il existe différentes sortes de chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Voici des chairs différentes. Si vous avez un morceau de chair dans votre assiette, vous pouvez déterminer s'il s'agit d'un morceau de bœuf, de poulet ou de poisson. Quant à la chair de l'homme, elle diffère encore. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Les anges sont composés d'esprit et les hommes composés de matière physique. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. L'éclat des étoiles que nous pouvons contempler le soir, bien entendu, n'est pas le même. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, le corps physique deviendra poussière, il ressuscite incorruptible, composé d'esprit. Il est semé méprisable, avec ses défauts, ses maladies, ses malformations. Il ressuscite glorieux, rempli de lumière. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force, plein d'énergie. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Voici donc une promesse pour ceux qui font la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, un être vivant composé de matière physique. » Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il s'agit ici du Christ, qui est redevenu un être spirituel rempli de force et de gloire après sa résurrection d'entre les morts. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et cela ne viendra que si, au cours de notre vie physique, nous prouvons à Dieu que nous voulons vraiment faire sa volonté. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. La dépouille d'Adam est retournée à la poussière depuis longtemps. Le second homme est du ciel. Lors de sa résurrection, le Christ a revêtu un corps éternel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, celle d'Adam, nous porterons aussi l'image du céleste, celle de Jésus ressuscité. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Le Christ est venu prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul écrit que ceux qui hériteront du royaume, qui y entreront, deviendront des êtres changés, composés d'esprit uniquement. Cette transformation en fils de Dieu, nous l'attendons. Dieu l'attend aussi. Cette attente est difficile pour nous, mais elle ne l'est pas pour Dieu car il n'est pas soumis au temps. Moïse savait cela. Voyons ce qu'il dit. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, sous-entendu dans la poussière. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme la veille de la nuit. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Oui, l'homme est comme une fumée qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. 1000 ans, pour nous tous, c'est démesuré. Mais pour Dieu, c'est comme un jour. Hier et demain ne sont pas une réalité pour lui, car Dieu est en dehors du temps. Lorsque le Très-Haut, qui devint le Père, et l'Éternel, qui devint le Christ, décidèrent d'agrandir leur famille, ils créèrent le monde, ainsi que le temps, rythmé pour nous sur la terre par le jour, la nuit et les saisons. Puisque le temps n'a aucune influence sur Dieu, il n'est ni impatient ni pressé. Il n'essaye pas aujourd'hui désespérément de sauver l'humanité. Il a établi un grand plan de salut qui nous est révélé par les 7 fêtes annuelles de l'Éternel. Contrairement à ce que l'on raconte, il n'existe aucune contestation entre Dieu et Satan. Souvenez-vous de Job. Satan doit respecter les limites que Dieu lui fixe, mais Satan ne pourra jamais l'emporter sur Dieu. Le sacrifice du Christ n'a pas été un ultime effort pour essayer de sauver l'humanité. L'apôtre Pierre compare le Christ à un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Donc, avant la création du premier homme, un sauveur était prévu pour être immolé comme agneau de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jusqu'à présent, la grande majorité momentanément aveuglée sera ressuscitée et recevra une chance de salut. Dieu qui est éternel souhaite l'immortalité pour tous, mais en son temps et conformément à son grand plan de salut.